Une idée comme ça, tu ne voudrais pas consacrer un épisode de Témoin d'actu à un coureur cycliste ? C'est le message que j'ai reçu la semaine dernière du chef du service des sports de RFI. Mais comme je ne suis pas une spécialiste du vélo, il m'a fallu plus de précision. Donc il a développé. Ce coureur, c'est Binyam Girmay. C'est un Érythréen, il a seulement 22 ans et il vient de remporter une étape du Giro, le tour cycliste d'Italie. Et surtout, c'est la première victoire sur un grand tour d'un coureur noir africain. J'ai dit oui, et c'est donc ce jeune garçon que je vous propose de découvrir dans cet épisode. Bonjour, c'est Alexandra Cagnard. Bienvenue dans Témoins d'actu, le podcast d'info de RFI. Si vous ne voulez rater aucun épisode, le plus simple, c'est encore de s'abonner. Le confrère avec qui j'ai rendez-vous s'appelle Thomas de Saint-Léger. Il est journaliste au service des sports de RFI. Il avait proposé il y a 2 mois de couvrir une étape du Giro. Et il a choisi précisément la 10e. Elle a eu lieu le 17 mai entre Pescara et Iesi, sur la côte est italienne. Il fallait parcourir 196 km. À l'arrivée, c'est donc Binyam Girmay qui s'est imposé au sprint. Tout le monde s'accorde à dire que ce petit jeune a un très très bel avenir et pourrait vite devenir la nouvelle attraction du cyclisme mondial.
Et les cloches ont sonné comme pour saluer Binyam Girmay, roi d'un jour en Italie, pour toujours héros d'Érythrée et d'Afrique. Son sprint rageur a fait craquer ses rivaux, devenu une accolade plus tard des amis, tous heureux pour ce champion venu d'ailleurs, aujourd'hui adoubé, admis dans la caste des grands, le néerlandais Mathieu Van Der Poel, superstar du peloton.
Moi, je pense que c'est un vrai talent. Il est encore jeune aussi et moi, je pense au futur, il va être à l'avant de la course toujours.
En attendant, il a dû abandonner le Giro parce qu'il s'est blessé sur le podium. Mais ça, c'est Thomas qui va me le raconter. Bonjour Thomas.
Bonjour Alexandra.
Je te retrouve non pas en Italie, mais à Paris parce qu'il n'était pas question que tu suives tout le Giro. Tu avais choisi précisément cette 10e étape, celle qu'a gagnée Girmay. Pourquoi ce choix ? Parce que, pour tout avouer, ton chef de service m'a dit... Il est quand même guidé par une bonne étoile, Thomas de Saint-Léger.
Je ne sais pas s'il y a une bonne étoile. Il y a 10% de science, 90% de chance. La science, c'est que je connais les qualités de Binyam Girmay pour le suivre depuis ses débuts, il y a 3 ans. Je l'avais rencontré sur des tours en Afrique. Je connais ses caractéristiques. Je commence à comprendre un petit peu comment il fonctionne. Et donc, partant de là... Et partant aussi du parcours du Giro, j'avais un petit peu étudié la chose et je m'étais dit que potentiellement cette étape-là, comme la précédente, comme la première, pouvait lui convenir. La précédente, donc la 9e et la première, il n'était déjà pas passé loin. Donc pour moi aussi, ça aurait pu être raté. Cette fois-ci, ça a fonctionné. Et il y avait quelque chose d'un peu, c'est vrai, magique dans cette ville de Iesi quand je suis arrivé là-bas. Je suis passé tout de suite devant un magasin sur lequel il était marqué Bini Gioielli. Donc en italien, Bini, bijou. Bini, c'est le surnom de Binyam Girmay. Donc tout ça me fait dire qu'il y avait quelque chose d'un petit peu écrit à l'avance, d'un petit peu surréaliste. Voilà, on l'interprète comme on veut. Toujours est-il que ce pari a fonctionné et que j'ai eu la chance de vivre un moment d'histoire et ensuite de le raconter sur RFI.
C'était la première fois qu'il participait à une grande compétition du grand circuit ?
Alors, il avait déjà participé à des grandes classiques en Belgique. Il avait d'ailleurs gagné, c'était son principal fait d'armes jusque-là, avec le championnat du monde espoir qu'il a terminé à la 2e place l'an dernier. Donc cette classique Gent-Wevelgem fin mars, où il se révèle vraiment aux yeux du très grand public, pas seulement des connaisseurs du petit monde du vélo. Donc c'était son premier grand tour de 3 semaines, donc le Giro, la Vuelta en Espagne et le Tour de France. Ce sont toujours des courses particulières qui demandent normalement un temps d'acclimatation. Et lui, c'est vrai que Veni, Vidi, Bini, c'est son équipe qui avait fait faire ce t-shirt-là. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Bini, encore une fois, le surnom du coureur. Donc directement, il arrive, il gagne. Et ça, c'est vrai que c'est étonnant pour ceux qui ne le connaissaient pas et pour ceux qui le voyaient arriver depuis un moment. Finalement, pas tant que ça.
Alors, on va le connaître un peu plus avec toi. Mais malheureusement, ce Giro, il s'est arrêté pour lui à l'issue de cette 10e étape, parce qu'il a eu une vraie mésaventure sur le podium. Je veux bien que tu me la racontes.
Alors, Je vais pas la raconter comme si je l'avais vue, ça serait te mentir, Alexandra, parce que il faut comprendre une chose, c'est que à l'arrivée de toutes les grandes courses cyclistes, il y a beaucoup d'effervescence, de monde et de zone surtout. Donc le podium protocolaire est assez loin de la zone dans laquelle moi je l'attendais pour les interviews d'après étape. Donc moi je suis en train de l'attendre et on ne le voit pas arriver, le maillot rose, donc leader du classement général, passe, etc. Et on attend toujours Binyam. Et en fait, c'est un spectateur qui va me dire « Vous avez des nouvelles de lui ?» Sur le moment, je ne comprends pas du tout de quoi il veut parler. Et là, effectivement, j'apprends qu'il a reçu le bouchon de la bouteille de Prosecco qui est offerte au vainqueur. Ce bouchon lui est arrivé dans l'œil. Le Prosecco, c'est le champagne italien. Donc sur le moment, j'ai l'impression que ce n'est pas forcément grave, surtout que je n'ai pas vu l'image. En fait, il va aller à l'hôpital derrière. Il ne va pas du tout se rendre dans la zone mixte, ce qui fait qu'on ne va jamais entendre directement sa réaction après cette victoire historique. Et là, on était vraiment, surtout moi, très déçus. Mais il avait de bonnes raisons, puisque à l'hôpital, on va examiner ses blessures. On s'aperçoit que ça ne lui permet pas de poursuivre la course. Donc, une journée montagne russe. Il est passé du très très haut avec une victoire dingue à la grande déception de devoir quitter la route de ce Giro, alors qu'il aurait pu espérer, par exemple, se battre pour le maillot du classement par points, le maillot Chiclamen. Il était deuxième de ce classement à ce moment-là.
Avant d'arriver jusque-là, son parcours, parce qu'il est tout jeune, hein, il a 22 ans, c'est lequel ?
C'est celui d'autres, finalement, coureurs cyclistes africains très talentueux, repérés assez jeunes parce qu'il avait performé au niveau des championnats africains et érythréens par le Centre mondial du cyclisme à Aigle, en Suisse. Donc c'est une institution qui dépend de l'Union cycliste internationale, qui a vocation à dénicher des talents dans des pays où le cyclisme n'est pas encore très développé, où les infrastructures ne permettent pas à ces cyclistes de grandir et de performer au très haut niveau. Donc il est repéré assez tôt par le Centre mondial du cyclisme. Il va faire sa formation là-bas. Et ensuite, il va rapidement gagner au niveau africain. C'est là que nos chemins se croisent. Sur le Tour du Gabon, où à 18 ans, il bat une référence du sprint, l'Allemand André Greipel, qui a gagné sur tous les grands tours déjà, lui, à ce moment-là. Donc évidemment, là, on se dit qu'il se passe quelque chose avec ce garçon-là. Ensuite, il va gagner également sur le Tour du Rwanda, qui est devenu la course référence du continent. Donc c'est là que je m'aperçois aussi qu'on a affaire à quelqu'un de très mature et de très particulier, dans le sens où il avait déjà des objectifs de carrière très définis, ambitieux, mais à la fois avec la volonté de ne pas griller les étapes. Donc quelqu'un de construit. D'ailleurs, sa carrière va se construire assez logiquement. Il va rejoindre en fin 2019 une équipe française, Delco, qui est une équipe de seconde division. Tout de suite, là aussi, il commence progressivement à avoir des bons résultats. L'équipe, malheureusement, va devoir cesser son activité pour des problèmes financiers. C'est une opportunité extraordinaire pour une autre équipe, une équipe belge de première division, son équipe actuelle, Intermarché ou Antigobert, qui va aller le récupérer gratuitement, qui va tout de suite décider de le faire courir sur des courses assez importantes. Il va tout de suite se montrer à la hauteur, même un peu plus, des attentes, et ce qui va amener cette formation Intermarché ou Antigobert à le propulser leader sur certaines courses. Ça veut dire à faire en sorte que ses équipiers travaillent pour lui. Et d'ailleurs, il va remporter avec cette équipe une première victoire assez importante en août 2020. Avant le championnat du monde espoir, qu'il termine à la deuxième place.
J'ai entendu le directeur sportif de son équipe, tu l'as interviewé, alors c'était, je précise, avant cette dixième étape. Il est évidemment très fier de son coureur, mais il dit plus que ça.
Il apprend très vite, il ne faut pas lui dire deux fois la même chose, parce qu'il regarde, il voit, il absorbe. Et surtout, il a beaucoup de talent, donc c'est pour ça qu'on le voit directement performer. Ça, c'est la qualité d'un champion. Oui.
Parce que dans le cyclisme, il ne suffit pas de pédaler, il faut aussi être un très bon tacticien. Et il a ça, Guermail ?
Il est né sur un vélo, me disait un autre membre de son équipe, son coéquipier estonien Renta Amae. C'est un petit peu ça, il a la science infuse du cyclisme. Effectivement, on peut penser qu'il suffit d'être le plus fort et à la fin, on gagne. Non, il faut gérer ses efforts, il faut gérer son placement au moment du sprint. faut manœuvrer, il faut apprendre aussi à se situer dans un peloton pour faire le moins d'efforts possible et faire l'effort au bon moment. Et toutes ces qualités, elles sont naturelles chez lui. C'est vrai que pour avoir suivi des courses en Afrique, on a cette chance, quand on suit des tours africains, de pouvoir être dans la course, c'est-à-dire derrière les coureurs, parce qu'il y a moins de suiveurs, etc. Et c'est plus, entre guillemets, tranquille. Et donc, je me suis retrouvé plusieurs fois derrière lui et je le voyais en situation. On voit finalement beaucoup mieux comment se comporte un coureur quand on est à 3-4 mètres de lui en pleine course. Et c'est vrai qu'il a, il a ce truc en plus. Même sa position sur un vélo fait corps avec la machine. Voilà, encore une fois, pour reprendre l'expression de son coéquipier, il est né sur un vélo.
Il est facile d'accès aussi ou pas ?
Il était facile d'accès, très facile d'accès au début, parce qu'il tout simplement il n'était pas énormément sollicité en dehors des supporters érythréens pour qui, comme tous les autres cyclistes d'ailleurs, il a un véritable héros. Pour les Européens qui le découvraient sur des courses en Belgique, en France, etc., il était quelqu'un d'assez effectivement accessible. Et il est devenu beaucoup moins parce que d'abord il a ses résultats, parce qu'ensuite il est devenu un symbole. Une attraction, ce que j'ai remarqué pendant le Giro, hein, c'est que c'est un des coureurs les plus appréciés, les plus demandés de la part du public. L'attaché de presse de son équipe me disait justement, c'est dur à gérer pour lui parce qu'il est passé de presque rien à beaucoup. D'ailleurs, le conseil que lui donnent ses proches dans cette équipe ou les gens qui s'occupent un petit peu de lui, c'est de ne pas faire comme il avait l'habitude de faire, c'est-à-dire répondre à tous les messages qu'il reçoit, répondre à toutes les sollicitations, parce qu'en fait, ça mange de l'énergie. Donc, pour ces raisons, il est devenu un petit peu moins accessible. J'ai toujours son numéro de téléphone, mais je ne vais pas l'appeler tous les dimanches après chacune de ses victoires. Je pense qu'il ne me répondrait pas.
Tu dis que c'est en train de devenir un vrai symbole pour le peloton. C'est vraiment aussi un modèle pour tous les jeunes cyclistes africains qui rencontrent, on le sait, pas mal de difficultés pour exister.
C'est même pratiquement impossible d'arriver là où il est arrivé. Les cyclistes africains, ils doivent se battre beaucoup plus que les cyclistes européens pour exister. Donc pour avoir des résultats, c'est encore autre chose. Certains ont le talent, on ne le saura peut-être jamais, parce qu'il y a ces difficultés qui sont d'ordre financier d'abord. Ça coûte cher de faire du vélo. Une machine, c'est extrêmement cher. L'équipement est très cher. Et puis l'Érythrée, en l'occurrence, c'est un pays qu'il est très difficile de quitter. Il est très difficile d'avoir un visa pour ses coureurs, de pouvoir signer des contrats avec des équipes européennes, puisque c'est elles qui ont l'argent et qui permettent aux coureurs de participer aux meilleures courses. Là, sa victoire, elle est symbolique parce que c'est une première. Elle va sans doute aussi faire dire aux équipes européennes, aux dirigeants des équipes européennes, faire prendre conscience qu'il y a ce vivier de talent et qu'il faut peut-être être prêt à dépasser les difficultés.
Et à mettre un peu d'argent.
Mais c'est vrai que, je parlais du frein des visas, c'est pas du tout anecdotique. C'est-à-dire que parfois, telle équipe voulait faire signer tel coureur, je dis érythréen, mais ça peut être un autre pays. Mais pour des raisons donc de papier, il n'était pas possible de le faire sortir du pays, donc de le faire concourir. Et finalement, on ne le voyait jamais évoluer. Et puis, c'est court une carrière. Et puis, la progression, si vous ne faites pas des courses de très haut niveau, à 25 ans, c'est déjà trop tard, en fait. Donc, c'est la victoire de Binyam Girmay, mais elle doit un petit peu aussi à tous ceux qui, sur le continent, se battent pour faire émerger ces champions, qu'ils soient en Érythrée, au Rwanda, au Cameroun, au Togo, au Bénin. Il y a des cyclistes au Burkina, il y en a partout, des cyclistes qui ont du talent sans doute. Et ces gens qui se battent pour les faire progresser, sans doute doivent recevoir une petite part de cette victoire qui, j'espère, en appelle d'autres. On voit d'ailleurs qu'il y a sans doute une petite mode qui est en train de se développer. D'autres équipes internationales sont en train de regarder ces talents d'Érythrée, du Rwanda, de les faire venir dans leur équipe. On verra ce que ça donne dans les années qui viennent, mais ça ressemble un petit peu à ce qui s'était passé pour les plus anciens entre nous avec les Colombiens dans les années 80. Ils sont venus presque d'un coup, ils n'ont pas eu les résultats tout de suite. Et aujourd'hui, les Colombiens, vous prenez Quintana, Bernal, sont parmi les plus grands champions du peloton.
Thomas, on l'a dit en début d'épisode, Bignam, il n'a pas pu terminer le Giro puisqu'il est blessé. Dans peu de temps, va démarrer le Tour de France. Il y avait déjà une chance qu'il y soit ou pas ?
Non. Son équipe avait défini un programme de course qui passait par le Giro, qui ensuite devait l'emmener vers d'autres courses. C'est très compliqué d'enchaîner le Giro et le Tour de France, qui sont donc deux grands tours de trois semaines assez peu espacés. Le départ du Tour de France, c'est au tout début du mois de juillet. Donc, ce n'était pas dans le programme. Également parce que c'est toujours compliqué d'exposer un tout jeune cycliste sur le Tour de France, qui est la course la plus médiatique. Il faut apprendre à supporter la pression. On a vu qu'il avait réussi à le faire sur un Giro, mais il disait lui-même dans une interview, il l'a dit au départ de l'étape qu'il a gagnée d'ailleurs, il me disait un petit peu souffrir de cette pression, de ces sollicitations, qu'il était un petit peu fatigué par ça. Donc est-ce qu'il est prêt pour le Tour de France à ce niveau-là ? Je ne sais pas. Maintenant, le fait qu'il ait abandonné, qu'il ait donc cette plage de récupération plus importante, le fait qu'on ait vu qu'il pouvait performer au plus haut niveau, va peut-être inciter son équipe à le sélectionner pour le Tour de France. Pour l'instant, on n'en sait rien. Mais elle se dit aussi, cette équipe, que sur la course vitrine du cyclisme, aligner le coureur qui est pratiquement l'attraction du moment, finalement, dans le peloton, ça peut être une bonne opération parce que les équipes, elles sont financées par des sponsors, que ces sponsors, on le sait, ils sont très très contents de ce qui se passe avec Bignam Girmay parce que ça leur donne une énorme exposition et qu'ils vont peut-être se dire qu'il faut en profiter. Donc il y aura sans doute une petite discussion entre la partie sportive qui va peut-être vouloir le préserver encore un petit peu et la partie financière, la structure de l'équipe qui se dit peut-être que ce serait pas mal de profiter du moment. Le directeur sportif disait « Je comprends les sponsors, on a un capital. » Il parlait dans ces termes-là. « On a un capital, mais il faut aussi le gérer et pas le brûler. » C'est un petit peu ce dilemme du moment. En tant que suiveur, je rêverais de voir Bignam Girmay au Tour de France, au départ du Tour de France à Copenhague le 1er juillet.
Merci beaucoup Thomas d'être passé dans Témoins d'actu.
Merci Alexandra.
J'espère que cet épisode vous aura donné envie de suivre ce petit prodige. Surtout, n'hésitez pas à le partager avec vos amis. Je vous dis à très vite.